Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à Apocalypse 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse, le dernier chapitre de la Bible. Apocalypse chapitre 22, nous allons lire les 5 premiers versets. Apocalypse chapitre 22, donc commençons au verset 1. Jean écrit ceci, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Nous arrivons donc à la fin de la vision de l'Apocalypse, la fin de la Bible, l'histoire qui a commencé en Genèse, dont nous avons lu un passage tout à l'heure. L'histoire qui commence en Genèse arrive maintenant à son accomplissement, premier mot sur la feuille, à son accomplissement dans la gloire éternelle. Et ces versets sont en fait la fin de la description de l'ultime vision, la vision de la Nouvelle Jérusalem que nous avons ici. Et Jean dira d'autres choses concernant le salut dans sa conclusion à partir du verset 6. Mais donc ici, nous avons les dernières images de cette vision. Et on retrouve des choses que l'on connaît. Et c'était intéressant que Wayne nous fasse la lecture de Genèse 2 tout à l'heure. Des choses que nous voyons ici qui nous renvoient à la création. Jean parle d'un fleuve de l'eau de la vie, il parle de l'arbre de vie, et on ne trouve ces deux éléments qu'en deux endroits, ici en Apocalypse, mais aussi donc en Genèse lors de la création. Cela souligne que, en fait, le plan originel de Dieu dans la création n'a pas été contrecarré. Pas un seul iota de sa volonté n'a pas été accompli. La rébellion de Satan, le règne du péché, n'ont pas contrecarré l'intention de Dieu. Et dans cette ville, cette nouvelle Jérusalem, que l'on a vu et que l'on va encore voir ce matin. Le peuple de Dieu ne retourne pas au jardin d'Éden, mais il avance vers ce que Dieu a préparé et ce que Dieu avait prévu à l'origine lorsqu'il a créé toute chose. Nous avançons vers un paradis qui est renouvelé. Un commentateur le résume en disant: la fin de l'histoire biblique confirme que le but originel de l'humanité dans le jardin d'Éden était de propager la lumière de la présence de Dieu sur toute la terre. C'est la mission qui a été donnée à l'homme, et on verra son accomplissement à la fin. Et la vision des prophètes, de Ésaïe par exemple, Ésaïe 11, verset 9, sera accomplie. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Nous avons vu que Jean a décrit cette ville éternelle. Il a d'abord décrit ses caractéristiques extérieures, et il a ensuite décrit les personnes qui y vivent. Et ce passage, ces premiers versets du chapitre 22, on va pouvoir le diviser en deux parties, un peu comme les théologiens divise en deux parties quand il parle de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la rédemption accomplie, Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 1 et 2 qui nous parlent des sources de vie qui sont une bénédiction pour la ville. Et ensuite, il y a la rédemption appliquée ou l'application de la rédemption. Qu'est-ce que cela veut dire que de recevoir, d'être nourri et d'avoir cette vie? Donc la première grande partie, la rédemption accomplie. Et Jean nous parle tout d'abord du fleuve, deuxième mot sur la feuille, un fleuve d'eau vive, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a deux passages en particulier dans l'Ancien Testament qui sont intéressants à mettre en parallèle avec cette vision de Jean. Le premier, bien sûr, Genèse chapitre 2. Et nous avons lu tout à l'heure au verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Mais l'autre vision, l'autre passage intéressant est celui en Ézéchiel, auquel nous avons déjà fait appel. Ézéchiel voit la vision du temple futur. Et il écrit en Ézéchiel 47, verset 1, « De l'eau sortait sous le seuil de la maison. » Et dans ce cas-là, c'était le seuil du temple. Genèse nous dit que le fleuve sortait d'Éden. Ézéchiel nous dit que l'eau vient du temple. Ici, en Apocalypse, l'eau coule du trône de Dieu et de l'agneau. Et toutes ces images se regroupent. Éden, c'est la source de la vie. Le temple, c'est le lieu de l'adoration de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau, c'est la source de vie et de rafraîchissement, le règne souverain de Dieu dans l'histoire. Et c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie éternelle à son peuple. Et encore une fois, notez que Jean nous souligne qu'il s'agit du trône de Dieu et de l'agneau. Et cela met en avant que la grâce de Dieu coule d'un côté de la volonté souveraine de Dieu. C'est lui qui choisit, c'est lui qui, par son décret souverain, a choisi son peuple. Mais cette grâce coule aussi de l'autre côté par la rédemption accomplie par l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix pour les péchés de son peuple. Cette image montre que les bénédictions qui sont réservées, au ciel sont réservées à ceux qui ont la foi dans l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Jean va nous parler de l'eau, le salut qui est dépeint par ce fleuve d'eau limpide, limpide comme du cristal, est un salut qui est fait de vie, troisième mot sur la feuille. Et c'est un salut qui parle, qui nous amène cette communion avec Dieu, cette réconciliation avec Dieu, cette vie qui vient de Dieu, c'est l'eau de la vie. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a parlé pendant tout son ministère sur terre. Et en particulier dans l'Évangile selon Jean, on a beaucoup de références, beaucoup de passages où il est question d'eau. On pense en particulier à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine au bord d'un puits. Cette femme qui est venue chercher, qui est venue puiser de l'eau à une heure inhabituelle. Et le Seigneur lui dit qu'il lui donnerait quelque chose de bien meilleur, de l'eau vive. Jean 4, les versets 10 à 14, Jésus répondit à cette femme, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à cette femme que ce qu'il apportait dans ce monde n'était pas une source physique d'eau, mais c'était l'opportunité par la foi de plonger nos mains dans le fleuve de la vie éternelle, de cette eau vive qui transporte la vie de Dieu dans les cœurs des croyants par la foi en Jésus-Christ. Et plus tard, dans ce même évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, le Seigneur Jésus-Christ dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Quatrième mot sur la feuille. En Jean 7, verset 37 et 38, le Seigneur, nous lisons ceci, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus offre cette eau vive à ceux qui viennent à lui dans la repentance, dans la foi. Et Jean nous précise que dans le verset suivant, que le Seigneur parlait de l'Esprit Saint, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est une description de cette vie en abondance, que Dieu donne par la foi en Jésus-Christ. Mais Apocalypse 22, Jean nous montre aussi l'effet de cette eau. Verset 1, il dit « Il me montra un fleuve d'eau vive de la ville, limpide comme du cristal. » Cela décrit la pureté de cette eau, l'effet purificateur, cinquième mot sur la feuille, l'effet purificateur de la grâce que nous recevons par la foi. Cette grâce qui vient de Dieu et qui purifie les cœurs. Jean, au verset 2, nous précise que ce fleuve coule au milieu de la place de la ville. Alors, ça pose quelques problèmes pour certaines personnes, parce qu'au chapitre 21, au verset 21, nous avons vu que la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et ici, nous apprenons que le fleuve coule au milieu de la place. Mais même si ces visions se chevauchent, on peut très bien comprendre cela en considérant que le fleuve coule à côté, juste à côté de la place de la ville et passe par le milieu de la ville. Et on a l'accomplissement de la promesse que nous avons vue en Apocalypse 7, verset 17. L'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et le fait que ce fleuve coule, traverse au milieu, au centre de la ville, montre que les bénédictions que Dieu a pour son peuple ne sont pas réservées à une certaine élite. Mais c'est l'expérience, c'est au cœur de l'expérience de toute personne qui habite dans la Nouvelle Jérusalem, de tout croyant, de tout enfant de Dieu, c'est de pouvoir boire de l'eau de la vie, de ce fleuve qui coule au milieu de la vie, de la ville et qui vient du trône de Dieu. On va recouper cela avec la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel, en chapitre 47, les 12 premiers versets, nous décrit dans ces chapitres le décrit du temple. Et au chapitre 47, nous décrit l'eau qui sort du temple. Et quand il décrit l'eau qui sort du temple, il dit au début, ce n'était qu'un filet. Et un peu plus loin, l'eau lui monte jusqu'à la cheville. Un peu plus loin, l'eau va jusqu'au genou. Et encore plus loin, c'est jusqu'à la taille, puis jusqu'aux épaules. Et puis le torrent est tellement profond qu'il est impossible de le traverser. Le torrent devient de plus en plus profond au fur et à mesure que le prophète s'avance. Et c'est une image de la puissance croissante de la grâce de Dieu, alors que l'Évangile progresse dans le monde au cours de l'histoire. Et alors que ce fleuve coule vers l'est, Ézéchiel voit que le fleuve, le torrent, purifie le pays. L'eau sort du temple pour arriver à la mer morte, et tout devient saint. Les eaux de la mer deviendront saines, nous dit Ézéchiel 47, verset 8, et beaucoup d'arbres de chaque côté, au verset 7. Si on connaît quelque chose de la topographie de cette partie d'Israël, de la mer Morte et de En-Gedi et toute cette région, c'est aride, c'est sec, que de l'eau salée. Mais Ézéchiel voit que ce torrent va purifier la région. L'eau, même l'eau de la mer va devenir saine. Ézéchiel 47, verset 9, « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Et verset 12, « Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » Et cette image dépasse ce que le progrès de l'Évangile a produit tout au long de l'histoire. La purification de peuples même, de cœurs, de plus en plus nombreux. Le don de la vie. Les bénédictions que nous avons en Christ. Et Jean reprend ce langage d'Ézéchiel pour montrer que Ézéchiel ne parle pas d'un temps futur où cette petite partie d'Israël allait connaître une purification. Non, il dit qu'Ézéchiel en fait décrit ce qui va se passer dans la ville éternelle, la nouvelle Jérusalem, une vitalité, une vie en abondance, une vie saine que Dieu a en réserve pour tout son peuple. Le fleuve de la vie, le fleuve d'eau de la vie. Jean ensuite nous décrit l'arbre, sixième mot sur la feuille, l'arbre de vie. Et encore une fois, il y a ce parallèle avec Ézéchiel, avec Genèse. Mais ici, il reprend le langage d'Ézéchiel au milieu. Et verset 2, il dit, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Et on retrouve cet arbre de vie en Genèse chapitre 2. Mais on n'a pas lu au chapitre 3 de Genèse qui dit que ceux qui mangeaient de cet arbre recevaient la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'Adam et Ève ont été empêchés de retourner dans le jardin, d'avoir accès à cet arbre. Maintenant, en Apocalypse, Jean voit cet arbre sur les deux bords du fleuve. C'est un arbre au singulier, mais qui est sur les deux bords du fleuve de chaque côté. On peut penser à un très gros arbre qui enjambe le fleuve. Beaucoup d'interprètes disent qu'il s'agit plutôt d'un bosquet d'arbres ou d'un verger d'arbres qui se trouve des deux côtés du fleuve. Mais il y a une analogie que l'on ne doit certes surtout pas manquer. Il y a une analogie entre l'arbre de la vie et l'incarnation du Fils de Dieu. Jésus, le Seigneur Jésus est venu pour apporter la présence de Dieu dans ce monde et à son peuple. Et dans le Fils, nous avons toutes les sources, septième mot sur la feuille, toutes les sources de pardon, de justice, de force, de sagesse, toute la vie que nous n'avons pas. Dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout ce que nous n'avons pas. Jésus est notre arbre de vie. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons en Christ. Et il nous donne les fruits dont nous avons besoin. Mais il est aussi intéressant de souligner que le mot qui est traduit ici par « arbre » est en fait un terme générique qui peut aussi se traduire par « bois ». Et c'est le terme qui est utilisé notamment dans le livre des Actes, lors des prédications des apôtres, pour parler de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Acte 5, verset 30, Acte 10, verset 39, « Jésus a été pendu au bois ». C'est le même terme ici que « arbre ». Pierre fait la connexion entre la mort du Seigneur Jésus et Jésus comme étant la source de vie. 1 Pierre 2, verset 24. Lui, en parlant de Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Il est mort sur le bois afin que nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La source de la vie éternelle n'est autre que le sacrifice, 8e mot sur la feuille, le sacrifice propitiatoire de l'agneau de Dieu, sacrifice qui a été voulu par Dieu le Père pour le salut de son peuple. Jésus est mort pour donner la vie à son peuple. Et cette image montre combien cette bénédiction est accessible. L'arbre se trouve des deux côtés du fleuve. Mais il va ensuite nous décrire les fruits. Tout d'abord, les fruits comme nourriture, 9e mot sur la feuille. En Ézéchiel 47, au verset 12, Ézéchiel a vu des arbres dont les fruits serviront de nourriture. Et Jean souligne que l'accomplissement de cela est dans la Nouvelle Jérusalem. Ici, au verset 2, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le fait qu'on ait 12 fruits, un fruit par mois, indique à la fois la variété des bénédictions, mais aussi leur disponibilité permanente. Il y a toujours un fruit. Mois après mois, l'arbre donne toujours son fruit. Il y a toutes sortes de bénédictions pour les croyants, et ils sont toujours disponibles. Et si on retourne à Genèse 2 et 3, on voit Adam et Ève qui marchaient dans le jardin d'Éden, qui jouissaient de la présence de Dieu. Mais nous ne retournerons pas à ce jardin. Nous allons en avant vers cette ville éternelle de Dieu, où nous trouverons une multitude de la descendance rachetée d'Adam et Ève. Et nous vivrons sous la bénédiction de cet arbre de vie. Et nous serons dans la présence de Dieu pour toujours. Et même si cette réalité sera entièrement manifestée après le retour du Seigneur Jésus-Christ, cette réalité est aussi un principe pour nous aujourd'hui. On retrouve cette façon de penser chez Jérémie, par exemple, qui avertit ceux qui se confient en l'homme, qui se détournent de Dieu pour se confier dans des puissances de ce monde. Jérémie 17, versets 5 et 6. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Quand l'homme se détourne de Dieu, il n'a plus accès à cette eau de la vie, et il perd sa force. Mais Jérémie va continuer en soulignant un contraste. Jérémie 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Et c'est une réalité, c'est une expérience que beaucoup de croyants ont vécue. Leur feuillage est resté vert, même dans des tribulations, même dans ce monde qui est plein de difficultés, parce que leur confiance est dans l'Éternel. Leur espérance est Dieu lui-même. Même dans l'année de la sécheresse, leur feuillage reste vert. Et que dit le psalmiste dans le psaume 46, verset 5 ? Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il parle de l'Évangile. Il parle de l'Esprit Saint qui œuvre dans les vies des enfants de Dieu et qui réjouit leur cœur. Et David, dans le psaume 1, connaissez ce psaume, on l'a appris avec les enfants, il y a déjà quelque temps déjà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Déjà ici-bas, donc, nous pouvons boire de cette eau, manger de ce fruit, et nous le faisons par la foi, ici-bas, par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et dans sa parole. Les fruits décrits comme nourriture. Mais ensuite, Jean nous décrit les feuilles comme remède, dixième mot sur la feuille. Encore une fois, Ézéchiel, au chapitre 47, a décrit que les feuilles de l'arbre de la vie serviront de remède. Et Jean souligne que les feuilles servaient à la guérison des nations. Et on peut se poser une question. De quelle guérison parle-t-il? Puisqu'il parle de la Nouvelle Jérusalem, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, où il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de mort dans cette ville. Alors de quelle guérison parle-t-il? Il veut parler de ceux qui entrent dans la ville. Ils entrent avec leurs blessures. Ils entrent avec leurs chagrins, avec leurs frustrations. Et ils sont guéris par les feuilles de cet arbre. Même le chrétien le plus fort va quitter ce monde abîmé, avec des blessures, des marques laissées par ses combats. Il aura été blessé sur le chemin. Il aura pleuré pour ses propres manquements, parce qu'il réalise qu'il est bien loin de ce qu'il voudrait être. Mais en entrant dans la ville éternelle, il sera entièrement restauré, entièrement guéri. C'est l'idée qu'on a dans le psaume 23, le psaume qu'on connaît tous. Psaume 23, verset 5, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et cette onction ici, l'idée qu'on a, c'est qu'à l'époque, les voyageurs arrivaient dans une auberge et ils étaient couverts de poussière. La peau de leur visage était marquée par le soleil, par le vent. Et l'aubergiste chez qui il s'arrêtait, s'il faisait bien son travail, il les accueillait avec de l'huile pour soulager leur peau. Et David dit que c'est ainsi que Dieu nous accueillera quand nous quittons ce monde. Il oindra d'huile notre tête. Mais il fera plus. Il nous guérira avec les feuilles de l'arbre de la vie. Et Jean précise que cet arbre sera pour la guérison des nations. Toutes les sources de conflits, de guerres, vont disparaître dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de nationalisme, plus de racisme, plus d'amertume. Cette longue histoire de guerres successives ne sera plus. Il y aura la guérison. Aujourd'hui, on rencontre toutes sortes de personnes qui avancent des utopies et qui se reposent sur la technologie ou les inventions humaines ou la philosophie ou toutes ces autres choses, mais qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui est la cause de toutes ces divisions, de toutes ces guerres. Rien ne peut être construit à part le péché. Tout programme humain est voué à l'échec. Et ce ne sera jamais, on n'atteindra jamais toutes ces utopies que l'homme avance à cause du péché. Mais par la mort du Seigneur Jésus-Christ, par sa résurrection, par son ascension, par son œuvre parfaite, nous trouvons le pardon, la guérison. Le peuple va entrer dans cette utopie que tous désirent. Il va connaître la paix. La paix sur le plan personnel, mais la paix aussi entre tous. Le Seigneur Jésus lui-même étant notre paix. dans la ville, dans la Nouvelle Jérusalem, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sera toujours présente avec toutes ses bénédictions. Les feuilles de l'arbre seront pour la guérison des nations. Voilà la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, par cette œuvre parfaite qu'il est venu accomplir. Voilà ce que donc nous décrivent les versets 1 et 2, les sources de vie qui sont une bénédiction pour la ville. Nous avons aussi maintenant la rédemption appliquée, l'application de la rédemption. Qu'est-ce que cela veut dire que de recevoir cette vie, la rédemption appliquée? Et tout d'abord, nous avons une restauration, 11e mot sur la feuille. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils sont tombés sous la malédiction de la colère juste et sainte de Dieu. Et le résultat, c'est qu'ils ont été chassés du jardin. Ils n'avaient plus accès à l'arbre de vie. Ils n'allaient plus jouir de la présence personnelle de Dieu. Et même la création s'est retournée contre Adam et Ève. On le voit dans notre propre vie. On va peindre quelque chose de métallique et la rouille arrive. On va construire quelque chose et la chose se casse. On va désherber et on a l'impression que ce sont les mauvaises herbes qui remportent la victoire. La création rend la vie difficile à l'est d'Éden. L'importance du péché peut se voir d'une autre manière. Dans la Bible, il y a 1189 chapitres. Et il n'y a que 4 chapitres qui se passent sans péché. Genèse 1 et 2 et Apocalypse 21 et 22. Les 1185 autres chapitres décrivent l'histoire de comment Dieu a racheté son peuple du péché par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jean écrit au verset 3, il n'y aura plus d'anathème ou il n'y aura plus de malédiction, il déclare que le péché a été enlevé. 12e mot sur la feuille. Le péché a été enlevé, que ses effets ont été renversés. Les croyants dans la Nouvelle Jérusalem vont jouir de la largesse, de la grâce de Dieu. Quelque chose qui est beaucoup plus riche en Christ que ce que Adam a connu dans le jardin. Il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Mais le temps n'est pas encore arrivé et nous vivons dans un monde qui est encore gouverné par le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous confessons nos péchés, si nous venons à Christ, à l'arbre de vie, à la croix du Seigneur Jésus-Christ, même si nous vivons encore dans ce monde, nous prenons déjà part à ce paradis. Cette vie nouvelle commence à œuvrer dans nos vies et nous avons communion avec Dieu, réconciliation avec Dieu. Mais un jour, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ aura pour effet que tout le péché sera enlevé. Il n'y aura plus d'anathème dans la Nouvelle Jérusalem. Paul va résumer cela en Galates 3, verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». La conséquence principale du péché d'Adam et Ève était leur séparation de la présence de Dieu. Et en correspondance, la bénédiction principale dans la Nouvelle Jérusalem, c'est le retour de la présence de Dieu, 13e mot sur la feuille. C'est le retour de la communion avec Dieu. Dieu est au milieu de son peuple, racheté. Il n'y a plus de séparation. Il n'y aura plus d'anathème. Et Jean continue en disant, verset 3, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. » On pourrait faire toute une série sur le trône de Dieu et de l'agneau, qui prend beaucoup de place dans le livre de l'Apocalypse. 75% des références au trône de Dieu dans toute la Bible se retrouvent dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons vu la première fois la mention du trône de Dieu en Apocalypse chapitre 4. Jean devait passer par une porte pour entrer au ciel. Et là, il voyait le trône de Dieu au ciel, loin de nous. Mais maintenant, à la fin de l'histoire, Jean voit le trône de Dieu et de l'agneau au milieu de son peuple, au milieu de la Nouvelle Jérusalem. Cette déclaration montre que la rédemption est une restauration de la présence, de la bénédiction de Dieu, mais aussi du règne de Dieu. 14e mot sur la feuille. Et cela implique, même aujourd'hui, que si Dieu veut régner dans notre vie par sa parole, c'est un signe que nous sommes revenus dans sa faveur. Si quelqu'un demande à quoi sert l'obéissance à la parole de Dieu, c'est comme s'il vivait encore sous une malédiction. Vivre selon ses propres désirs, pour ses propres plaisirs, c'est suivre sa propre folie qui mène à la destruction. Mais un signe qui montre que la malédiction a été enlevée, que la bénédiction de Dieu est descendue sur nous, c'est que son trône est dressé devant nous et que nous voulons être sous son règne, recevoir toutes ses bénédictions en nous plaçant sous l'autorité de sa parole. Les croyants rachetés de la malédiction et bénis par la présence de Dieu sont appelés, au verset 3, ses serviteurs, et ils le serviront. Dans le grec, le terme utilisé ici peut se traduire à la fois par servir ou adorer. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, les deux vont ensemble. Et tout comme Adam a été appelé à cultiver, à garder le jardin, Genèse 2, verset 15, il devait le faire pour produire du fruit, pour multiplier. De la même façon, les croyants rachetés s'occuperont à répandre la gloire de Dieu dans l'univers, et ce pendant toute l'éternité. Ce ne sera pas quelque chose d'inintéressant, mais ce sera un exercice dans la présence même de Dieu lui-même. Et l'idée ici, c'est, avec tous ces termes qui nous renvoient au temple et au sacrificateur, c'est comme le sacrificateur qui entrait dans le temple. C'était un accomplissement. C'était ce que le sacrificateur, tout sacrificateur, attendait. Un sacrificateur normal n'allait servir dans le lieu saint qu'une fois pendant toute sa vie. Et cela devait être excitant de se trouver au milieu de tous ces objets sacrés, d'être dans le lieu saint, juste à côté du voile, juste derrière, devant le voile, derrière lequel il y avait la gloire de l'Arche de l'Alliance. Mais tout cela n'est qu'un avant-goût de ce que toute l'éternité sera pour tout le peuple, dans la gloire la gloire à venir. Nous allons adorer Dieu dans sa présence. Nous partagerons avec le Seigneur Jésus-Christ la garde, l'entretien du cosmos régénéré, glorifié. Et ce sera un travail entièrement satisfaisant, 15e mot sur la feuille. Le commentateur résume en disant « Revêtus de robes de sainteté qui ont été lavées et blanchies dans le sang de l'agneau. Les croyants seront devant le trône de Dieu et ils le servent sans cesse dans son temple, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. » Et notre challenge aujourd'hui, c'est de réaliser que cela est essentiellement vrai de nous aujourd'hui, si nous sommes à Christ. Nous tenons devant Dieu déjà aujourd'hui, revêtus de la justice parfaite de Christ qui a été imputée sur notre compte. Et l'adoration que nous offrons à Dieu, le service que nous lui offrons, tout cela sont des sacrifices vivants qui sont agréables à Dieu. Et nous allons continuer de cette manière dans la gloire. Il y a une restauration, mais il y a aussi une connaissance, 16e mot sur la feuille, une connaissance de Dieu. Le verset 4 nous dit que nous passerons l'éternité dans la croissance de notre connaissance de lui. Ils verront sa face. La face révèle qui est la personne. Quand on voit une silhouette, quand on voit une ombre, cela nous permet de dire que c'est une personne. Mais quand on voit la personne, quand on voit la face, on sait de qui il s'agit. Voir la face de Dieu, ce sera connaître qui Dieu est en personne. Et on a ici une bénédiction que l'on ne peut pas connaître ici-bas. Même les plus grands serviteurs de Dieu n'ont pas connu cette bénédiction. Moïse a prié, il a demandé à voir la face de Dieu. Mais Dieu lui répond, Exode 33, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et vous connaissez l'histoire, Dieu a placé Moïse dans le creux d'un rocher, la gloire de Dieu est passée, Moïse a pu la voir, la gloire de Dieu, depuis l'arrière, de l'arrière, mais il n'a pas pu voir la face de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur enseigne que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir sa face, c'est le péché. C'est le péché. Et Jésus dit en Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Dans cette vie, personne ne peut être qualifié de cœur pur pour être capable de voir la face de Dieu. Mais dans l'ère à venir, dans la Nouvelle Jérusalem, nous serons saints comme il est saint. Et nous serons purs et nous verrons sa face. Jean écrit ceci en 1 Jean 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et Jean va ensuite appliquer cela. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Nous ne deviendrons sans doute jamais des personnes très connues. Mais si nous avons cette union avec le Seigneur Jésus-Christ par la foi, nous verrons la face de Dieu. Nous verrons Dieu. La marque d'un chrétien qui grandit, qui mûrit dans sa foi, c'est ce désir de plus en plus grandissant, de plus en plus central, qui l'occupe de plus en plus, de voir la face de Dieu, de connaître Dieu. Et ce désir est en fait un privilège, 17e mot sur la feuille, un privilège qui, dans l'Ancien Testament, était réservé au souverain sacrificateur. Symboliquement, un jour dans l'année, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, où il y avait la gloire de l'Arche de l'Alliance. Mais le contexte, l'imagerie que Jean du temple, donc que l'on voit ici dans la vision de Jean, nous montre que ce que le souverain sacrificateur connaissait un jour dans l'année, que cela se deviendra le privilège de tout croyant en Jésus-Christ pour l'éternité. Être dans la présence de Dieu, voir sa face, habiter dans sa gloire pour toujours. Et nous voulons anticiper ce privilège, nous voulons nous y préparer en cherchant à connaître Dieu, à mieux le connaître maintenant par sa parole. Pour les personnes qui sont destinées à voir la face de Dieu, l'activité la plus saine que nous puissions faire, l'activité la plus bénéfique, c'est d'étudier la connaissance de Dieu par sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ affirme lui-même, Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Quand on rencontre un croyant qui passe par des moments difficiles, toujours intéressant de demander quelles sont ses lectures, qu'est-ce qu'il est en train de lire. Et très souvent, on a les réponses comme « Je lis au sujet de tel phénomène ou de tel problème que j'essaye de comprendre. » Et c'est bien de s'intéresser à ces choses, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas ce qui élève notre âme. Nous devons grandir dans la connaissance de Dieu, lire au sujet de Dieu, au sujet de sa personne, au sujet de ses attributs, au sujet de son caractère. Voilà ce qui élève notre âme. Voilà ce qui nous prépare pour notre destinée. Voilà ce qui va élever notre louange, notre adoration. Connaître Dieu à travers sa parole. Connaître Dieu pour l'adorer. C'est le titre d'un livre de Sinclair Ferguson, édité chez Europresse. Mais voilà, comment adorer Dieu si nous ne le connaissons pas réellement ? Dès ici-bas, lisons de bons livres qui nous expliquent la parole de Dieu et qui nous font découvrir la personne de Dieu, afin qu'en réponse à cela, nous fassions monter notre adoration et notre louange, que nous soyons véritables adorateurs de Dieu. Mais en plus de voir sa face, Jean nous dit au verset 4 que le nom de Dieu sera sur leur front. Et cela nous renvoie sans doute à un passage en Exode 28, versets 36 à 38, où le souverain sacrificateur devait entrer dans le temple en portant une tiare sur laquelle il y avait une lame d'or pure et sur laquelle était gravée l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». Mais on a déjà vu en Apocalypse chapitre 7 que tous les saints sont scellés avec le nom de Dieu. Et cela affirmait qu'ils appartenaient à Dieu, que Dieu allait les protéger et qu'il allait les amener jusqu'à la destination finale. Cela est un contraste frappant avec le monde incroyant qui portait le nom et la marque de la bête. Mais le nom de Dieu souligne son caractère. Et le peuple de Dieu qui porte son nom sur son front porte ce caractère aussi dans leur vie de sainteté. 18e mot sur la feuille. Ils portent ce caractère dans leur vie. Cela indique la propriété de Dieu, son union dans le cadre de son alliance, son acceptation de tous ceux qui appartiennent à Christ. Aucun de ceux qui portent le nom de Dieu ne sera oublié, ne sera perdu. Dans sa lettre adressée à l'église de Philadelphie, au chapitre 3 et verset 12, le Seigneur Jésus dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Porter le nom de Dieu et le nom de Christ sur notre front, c'est refléter la gloire de Christ. C'est porter l'image du Christ glorifié. Comment le faire même déjà ici-bas? En marchant avec lui, en apprenant de lui par sa parole, par nos prières, par notre communion avec lui, une communion réelle, une communion vivante, une communion à chaque instant. Et par la puissance qu'il nous donne par son esprit, nous porterons, nous serons transformés de gloire en gloire à son image. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, ou notre traduction dit, nous tous qui le visage découvert contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Comment porter l'image de Christ? Par un caractère qui est sanctifié, par des actes de justice, par une adoration qui est fidèle à la parole de Dieu et par notre témoignage à l'Évangile. Nous portons le nom de Dieu, le nom de Christ, maintenant déjà ici-bas, si nous sommes à lui. Il y a une restauration, il y a une connaissance, et troisièmement, il y a une destinée. 19e mot sur la feuille. Et le verset 5 reflète l'affirmation de Jean qu'on a vu un peu plus tôt. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Tout ce qui faisait obstacle à une relation avec Dieu dans l'ancien temps, tout cela a été enlevé. Il n'y a plus de nuit, plus de tentation, plus de crainte, plus de danger. Il n'y a plus besoin d'une lumière venant d'un astre. Ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en fait, n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est la Nouvelle Jérusalem où la présence de Dieu sera la lumière pour son peuple. Le peuple n'aura pas besoin de nuit, pas besoin de sommeil, parce qu'il aura une énergie sans limite pour servir et adorer Dieu pour toujours. Et Jean termine sa vision à la fin du verset 5, « Et ils régneront au siècle des siècles. » Cela nous renvoie au début. Cela nous renvoie à Genèse. Qu'est-ce que Dieu a dit quand il a créé l'homme ? Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Et qu'il domine. Mais le péché est entré. Et il a fait des hommes et des femmes des esclaves. Dieu, dans sa grâce, a l'intention de faire de ses enfants des princes. À travers notre union avec le Seigneur Jésus-Christ par la foi, nous sommes destinés à régner, 20e mot sur la feuille, à régner avec lui sur la nouvelle terre, cette terre de gloire. Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Alors si telle est notre destinée, pourquoi laisserions-nous le péché régner dans notre vie ? C'est toute l'argumentation de l'apôtre Paul en Romains 5 et 6. Bien sûr, nous allons chuter, nous allons succomber, nous allons tomber, mais nous ne sommes plus sous la domination du péché si nous appartenons à Christ. Pourquoi être anxieux, 21e mot sur la feuille ? Pourquoi être anxieux même dans les épreuves les plus terribles que nous pouvons connaître ? Paul nous rappelle en Romains 8, versets 31-32, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Dieu nous prépare, Dieu nous donnera tout dont nous avons besoin pour nous préparer à être avec lui pour toujours. Pourquoi avoir peur, 22e mot sur la feuille, pourquoi avoir peur d'annoncer l'Évangile, de dire la vérité à ce monde qui a tant besoin de connaître, d'entendre cette vérité ? Pourquoi avoir peur, nous qui sommes destinés à régner avec Christ dans le monde à venir ? Jean nous avons vu ce passage en Apocalypse 12, verset 11, où Jean dit que les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ vaincront par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. N'ayons pas peur d'aller à contre-courant, d'annoncer la vérité, le merveilleux message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et ces paroles de Jean, cette dernière parole de la vision, nous renvoient aussi à ce que Daniel dit en Daniel 7, verset 18. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Voilà la destinée de ceux qui sont à Christ. Voilà notre destinée si nous sommes à Christ ce matin. Une restauration, une connaissance de Dieu, de voir sa face. Et une destinée glorieuse et éternelle. C'est une vision glorieuse qu'il est difficile, par nos termes limités et par notre intelligence limitée, de comprendre. Mais dans sa grâce, Dieu nous donne un langage et des symboles qui nous permettent de saisir quelque chose de la beauté, de la merveille, de ce qui attend le peuple de Dieu. Levons donc les yeux, les regards vers les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Hâtons le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ne soyons pas, ne nous laissons pas prendre par les choses de ce monde qui sont tellement envahissantes et qui peuvent nous occuper, qui ont une place. Mais prenons le temps de lever les yeux, de regarder vers cet avenir glorieux qui attend le peuple de Dieu. Et réjouissons-nous qu'un jour, nous serons dans la gloire de Dieu, que nous serons avec lui pour l'éternité, et que tout mal, tout péché, toute limitation, tout ce qui nous frustre ici-bas aura disparu. Nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ et tout son peuple, et nous serons avec lui pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs, qu'il nous encourage et qu'il nous aide dans notre pèlerinage sur terre à ne pas perdre de vue la destinée glorieuse vers laquelle il nous mène. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.